Well, this morning I feel myself insufficient to maybe preach, to share with you of the wonderful things that we read in God's Word.
Alors, ce matin, je me sens bien incapable de peut-être prêcher de partager des merveilles que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Mais je prie pour la grâce de Dieu, comme ça a déjà été prié, que toi aussi, tu puisses recevoir cette grâce comme des morceaux, des miettes qui tombent de la table. La chorale, nous venons de chanter de la grande grâce que nous recevons à la croix par la mort de Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir la pardon des péchés et nous pouvons recevoir, comme dit ce chant, cette tunique blanche. Voilà ce qui devrait être notre tunique. Mes amis et mes ennemis. Alors, fais-tu partie de cette foule qui est revêtue de cette tunique blanche, un vêtement blanc, pur? À l'Apocalypse, nous lisons, à la fin, peut-être que tu fais partie de ceux qui n'aiment pas laver leur robe. Mais il est dit dans la parole, dans l'Apocalypse, qu'il y aura un trône. Et ceux qui se tiendront devant ce trône seront ceux qui auront lavé leur robe, qui auront lavé leur tunique dans le sang de l'agneau. Et leur tunique, leur robe sera blanche. Je crois que les prédicateurs ici ont le désir que toi, tu sois revêtu de cette tunique blanche, non pas avec des haillons, non pas avec une tunique, des habits plein de sang, peut-être une tenue avec laquelle le Seigneur aura honte. Peut-être tu penses, non, mais le jour où je quitterai la tombe, alors j'irai à la rencontre de mon Seigneur. Mais alors pose-toi la question, avec quel habit vas-tu le rencontrer? Alors oublie peut-être un certain nombre de choses que les prédicateurs prêchent. Mais nous avons ce désir que tu puisses revêtir une telle robe. Si tu as revêtu cette tunique blanche, alors tu ne gaspilleras pas ton temps à plumer le poulet, même si ce poulet est blanc. Alors, pose-toi la question. Avec quoi es-tu revêtu? Comme nous l'avons entendu de la part de ce monsieur Kulegani qui a témoigné. Il nous a dit même le pouvoir du péché, le pouvoir de tes pensées est brisé. Et on peut avoir la victoire à cause du pouvoir de purification du sang de l'agneau qui a été crucifié. Celui qui aura le pouvoir, la puissance, la gloire et l'honneur à jamais, pour toujours. Alors nous voulons prier. Seigneur, merci. Ta parole est vivante. Et si ton esprit ouvre nos yeux embués, enfumés, alors nous pouvons voir. Bénis ta parole d'une manière plus grande encore que nous pouvons penser ou prier. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Je pensais ne faire que lire certains passages de la Bible, peut-être parce que nous ne lisons pas la parole. Mais si nous lisons ici ce matin, alors cette parole peut nous transformer. Jésus a enseigné à ses disciples un jour en leur disant, vous êtes purifiés à cause ou par les paroles que je prononce, que je vous ai dit. Parmi eux, il y en a un qui n'a jamais été purifié. Alors, ce passage m'a remué, m'a secoué quand j'ai lu dans 1 Roi 17, à partir du verset 1. Donc 1 Roi 17, un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Verset 2. Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. » L'eau du torrent te servira de boisson. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Verset 3. Alors faisons une pause après le verset 4. Dans ce passage, nous lisons d'un homme. Nous lisons l'histoire d'un homme dont le nom signifie « Mon Dieu, Jéhovah, celui qui est ». Nous ne lisons rien de qui était son père, sa mère, ses ancêtres. Mais là, nous lisons l'histoire d'Élie. Et c'était un homme qui pouvait prononcer la parole, qui pouvait transmettre la parole de Dieu, même au roi Achab. Et Élie était fidèle. Il ne s'est pas dégonflé, si on pourrait dire. Et il n'était pas affairé à parler et à répandre des calomnies. La seule fois où il a calomnié, c'était ceux qui suivaient les prophètes de Baal. Et c'était, il l'a fait par la puissance et le pouvoir que Dieu lui a donné pour reprendre le peuple d'Israël. Mais ces paroles étaient filtrées. C'était des paroles qui étaient prononcées dans la présence de Dieu. Et ainsi, il a pu dire aussi vrai que l'Éternel est vivant. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie. Sauf si je le demande. En anglais, il dit « sauf par ma parole ». C'était donc un messager de la part de Dieu. Et il a dit « il ne pleuvra pas jusqu'à ce que vous m'entendiez, jusqu'à ce que moi, je parle lorsque je serai envoyé par Dieu pour demander la pluie. » Alors, quel homme? Alors, que recherches-tu dans ton christianisme? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie chrétienne? Après quoi cours-tu? Peut-être, qu'est-ce que tu veux? Tu veux peut-être la reconnaissance dans ta vie chrétienne, de reconnaissance pour ce que tu es ou qui tu es? Il y a une parole que Moïse a prononcée. Il dit, dans la bénédiction qu'il a prononcée contre Israël ou à l'encontre d'Israël, il a dit, « Oh Dieu, Jéhovah, tous les saints sont entre tes mains, ô Dieu. » Alors, quand nous parlons de ceux qui sont entre les mains de Dieu, alors que nos paroles soient peu nombreuses. Ne mets pas Dieu en colère par tes paroles vaines, par tes commérages, même si cela paraît si spirituel dans ce que tu peux dire. N'utilise pas la Bible pour prendre avantage pour toi-même. N'utilise pas la parole de Dieu pour l'utiliser de manière vaine. La Bible, nos paroles, nous dit celui qui utilise le nom de l'Éternel en vain ne continuera pas sans être puni, sans être jugé. Alors, depuis combien d'années es-tu chrétien? Oublie ce que tu sais. Oublie toutes les excuses et les argumentations, les justifications que tu utilises. Oublie toutes les raisons valables que tu peux avoir. Mais sache que ce Dieu d'Élie, qui écrit, inscrit toutes tes paroles, et il est dit que c'est par tes paroles que tu seras condamné ou tu seras justifié, dit libéré, tu seras libéré. Excusez-moi si ce n'est pas le terme exact de la parole. Alors, à qui s'adresse Élie? Il s'adresse au roi Akab, roi d'Israël. Sur la vie d'Akab, nous avons un résumé de qui était cet Akab, ce roi. C'est au verset 33 du chapitre précédent. Il est dit, « Par tous ses actes, Akab irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. » Le chapitre 16, verset 33.
Pity, revelation that has to
Quel malheur pour une nation d'avoir un tel roi, en plus pendant 22 ans. Pourtant, il était un bon gentleman pour son épouse, pour sa femme. Il lui a permis de servir d'autres dieux. Et alors, pour elle, il a érigé un autel pour Baal. Il est pourtant le dieu du peuple choisi par Dieu. Il est le roi, pardon, du peuple choisi par Dieu. Et pourtant, il laisse sa bonne épouse amuser et nourrir les prêtres de Baal. Nous ne pouvons pas attendre les bénédictions de l'Éternel, de Dieu, lorsqu'un roi provoque et met le Seigneur, met Dieu en colère. Alors, quel genre de roi es-tu dans ta famille? Père, tu es la tête de ta famille. Tu es roi. Peut-être que tu dis, non, personne ne doit s'immiscer dans les affaires de mes enfants. Non, personne ne doit s'affairer avec ma femme, parce que de toute façon, elle m'appartient, alors laissez-la te faire, laissez-la tranquille, parce que ma femme, de toute façon, est si belle. Isabelle, ma femme, est l'experte en maquillage. Oh, ma femme Jézabel a une langue tellement susurreuse. Dans mes problèmes, elle est là pour m'aider. Rappelez-vous quand Akab un jour a voulu un lopin de terre et le propriétaire de cette terre lui a dit « Non, mais cet lopin de terre, c'est mon héritage. » Je l'ai reçu de mon père, je ne peux pas l'échanger contre un autre morceau de terrain. Et alors Akab est rentré à la maison et il a pleuré, il s'est lamenté sur son lit. Parce que Naboth, le serviteur, n'était pas disposé à lui donner son terrain, à abandonner son héritage. Et sa femme attentionnée est venue le voir en lui disant « Oh, mon chéri, qu'est-ce qui te trouble, pourquoi es-tu si déprimé dans ta chambre ? » Oh mon chéri, ce Naboth, il est un homme têtu. Tu lui as fait une si belle offre et il ne l'a pas acceptée. Et il n'a pas voulu écouter et faire ce que son bon roi lui a demandé. Et cette épouse, si intelligente, si belle, alors est venue avec une bonne idée, avec la bonne solution pour aider son pauvre et misérable mari, qui souffrait tant, qui souffrait tant dans son état de dépression. Et la femme, Jézabel, a dit: « Ah, Akab, reste là, ne bouge même pas le petit doigt, je vais m'occuper de tout. » Et en secret, on ne sait pas comment elle a pu encourager les menteurs, peut-être en leur donnant de l'argent. Et elle leur a dit: calomnier et accuser Naboth de mensonge, accuser Naboth d'avoir calomnié et parlé mal du roi, et qu'on en termine avec ce Naboth. Et donc, bien que Élie se présente face à ce roi, Akab lui dit, Élie dit à Akab: Dieu m'envoie. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers. Quelle merveille d'avoir des saints, d'avoir des personnes saintes qui peuvent parler de la parole de Dieu et qui ont une parole de vérité, qui ont une parole finale, qui ne reviennent pas sur leurs paroles. Il faut que je saute certains points, mais il est dit plus tard, verset 3, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit. Nous connaissons l'histoire d'un autre prophète qui s'est caché aussi à cause de la colère et la fureur de la femme d'Akab. Ce même prophète qui a dû fuir pour sa vie et qui a dû aller dans le désert. Le Seigneur dit à Élie: l'eau du torrent te servira de boisson. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Cet homme de Dieu, ce prophète, a obéi. Il a obéi à celui qu'il servait. Et il est allé, et il s'est caché là, en étant seul. Et il a bu de ce torrent et il a mangé le matin et le soir du pain et de cette viande qui ont été amenées par des oiseaux, par ses ailes, et ainsi qu'il puisse survivre. Et il a dû attendre patiemment, il a dû compter patiemment sur le Seigneur. David en fait mention dans le psaume 31. Peut-être parce que ce même esprit habitait David, cet esprit qui habitait en Élie. Verset 13. Alors, excusez-moi de lire un passage. Verset 12 en français. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. C'est verset 14. En anglais, c'est en verset 13. Verset 14 de psaume 31. J'entends toutes les médisances que l'on répond à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abrite en toi, au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente, des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Verset 24, vous, fidèles de l'Éternel, Aime-le, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Laissez-moi encore lire un passage dans Éphésiens, chapitre 1. À partir du verset 18, Galates, Éphésiens 1, verset 18. Verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Alors, est-ce que vous entendez la fin de ce verset qui dit « Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent ?» En anglais, il est dit « avec tous les saints ». Alors, est-ce que tu veux expérimenter cette glorieuse richesse de l'héritage avec les saints? Verset 19. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. C'est quelque chose d'incompréhensible avec un esprit humain, avec une raison humaine. Alors, as-tu déjà laissé cette puissance être révélée dans ta vie? Mais lorsque tu es attaqué, peut-être dans le monde de tes pensées, peut-être tes propres pensées qui fermentent en toi, alors lis ce passage. Est-ce que la puissance de Christ est trop petite dans ta vie? Thank you. verset 22, Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Alors, est-ce que tu appartiens à cette Église, celle dont nous venons de lire? Est-ce que tu appartiens à cette Église? Oui, peut-être nous pouvons prétendre en disant « Oui, je fais partie de cette Église dans l'auditorium de la mission Kwasi Zabantou. » Mais la question se pose, est-ce que tu fais partie de cette Église, de celui qui est chef, qui domine toutes choses, cette Église qui est son corps? Tu peux faire partie du corps de Jésus. Tu peux expérimenter cette autorité, cette puissance, cette domination. Tout est placé sous ses pieds, à condition que tu fasses partie de ce corps, le corps de Christ. Alors, enfants, est-ce que vous comprenez un peu, peut-être un petit peu, lorsque tu reçois l'enseignement, quand tu es enseigné par les saints du Seigneur, il te pousse, il souhaite que tu fasses partie de Christ, fassiez partie de son corps, de son Église, afin d'expérimenter cette puissance, cette domination, cette souveraineté au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Alors, tu peux te tenir comme un Élie sans craindre les hommes. Parce que tu peux dire « Jéhovah est mon Dieu ». Alors, tu fais partie de son Église. Si un des membres souffre, alors les autres membres souffrent aussi pour ce membre qui souffre. Tu n'as pas besoin d'être seul. Alors, pourquoi est-ce que tu te tiens seul, solitaire? Si tu crois que ce Jésus qui est venu sur terre pour te racheter, pour te donner cette tunique blanche comme la neige, parce qu'il veut que tu fasses partie de son corps, ce que lui ressent, tu peux le ressentir. S'il parle, alors cette parole est en toi, elle fait partie intégrante de toi. Et si il te reprend, il te corrige, c'est pour ton bien. Parce que si quelqu'un te reprend, cette personne ne veut pas que tu perdes cette connexion avec Jésus, que tu ne deviennes pas partie des pécheurs, du diable, que tu ne fasses pas partie des déserteurs. Non, ces personnes qui te reprennent veulent, ont ce désir que tu expérimentes cette puissance, cette autorité, même jusque dans ton cœur et jusque dans ton corps. Alors, tu ne seras plus comme un badaud. Ah, je vais aller à l'église, je vais voir. Tiens, est-ce que. Tiens, qu'est-ce qui va témoigner aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il raconte? Ah, quand même, il aurait pu dire les choses différemment. Non, si tu fais partie de ce corps, tu as été greffé sur ce cep et tu fais partie de Jésus. Si ce que Jésus ressent pour cette personne, alors tu ressens la même chose. Mes amis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que cette parole nous offre? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus nous offre par sa souffrance, par sa mort? Il est venu pour ça, pour nous offrir ça. Ces derniers jours, il y a une jeune fille, une petite fille, qui a 2 ans. Et certains d'entre nous, nous étions en train de parler de ces personnes qui peut-être sont là, mais dont le cœur n'est pas là. Et tout d'un coup, cet enfant, cette petite fille, a dit, « Mais moi, mon cœur, il est là !» en montrant son cœur. Alors la question se pose, « Où est ton cœur ? Est-ce que ton cœur fait partie de Jésus? Est-ce qu'il est en Jésus? Qu'est-ce que je dois ajouter? Si tu n'as pas compris, alors relis ce passage. C'est un passage qui est bien trop difficile à expliquer. Expliquer ce que Jésus, quelle était son intention pour toi et pour moi? Quel est son but, son objectif pour toi et moi? Je pense que chacun qui cherche la sainteté, qui cherche à devenir un saint de Jéhovah, de l'Éternel, alors il va t'encourager. Il va vouloir que tu fasses partie de ce corps de Christ, que tu sois greffé en Christ, afin de parler ce qu'il dit, afin de ressentir ce qu'il ressent, afin d'aller là où il t'enverra. Vous pouvez m'abaisser, Mais combien souvent les saints n'ont-ils pas prié pour toi? Chaque réunion, chaque méditation, ils prient pour toi. Et peut-être ne l'as-tu pas accepté en disant « Non, mais c'est pour les autres ». Non, je suis là pour te dire, ce message est pour toi, pour toi. Afin que tu fasses partie intégrante de Christ. Peut-être c'est quelque chose de difficile à comprendre, à expliquer. Relis la parole de Dieu. Et alors, peut-être que tu vas comprendre ce que je veux dire.
Thank you so much. That key is Christ.
Et peut-être tu fais partie de ces exclus, tu n'as ni père ni mère, tu n'as pas d'histoire, mais pourtant tu peux te tenir comme Élie et en disant « Ainsi parle l'Éternel, voilà ce que j'ai entendu de la part de Dieu, voilà ce qu'il me commande, il m'ordonne de dire, d'aller là. » Et tout le monde me haït peut-être, tout le monde cherche à me supprimer, mais Seigneur, tu es mon refuge, tu es avec moi. Tout mon espoir est en toi seul, même si tout le monde m'abandonne. Merci beaucoup. Cette clé est Christ. Mes amis, Christ est venu pour mourir pour nous, afin que nous comprenions, afin que nous saisissions ce qui a été dit. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par nos propres intelligences, mais c'est par sa grâce que nos yeux et notre cœur peuvent être ouverts pour lui. Élie savait qu'il se tenait devant Dieu. Joseph aussi a compris qu'il se tenait devant Dieu. Ils avaient une relation. C'était là leur secret. Ils avaient cette relation. Alors toi, quelle est la relation que tu as avec Jésus? Est-ce que tu ressens ce qu'il veut te dire? Est-ce que tu lis ta Bible? Comment est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu saisis, est-ce que tu comprends lorsque tu lis la parole de Dieu? Que nous puissions simplement comprendre qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et comprendre que nous sommes dans sa main, qu'il nous tient dans sa main. Lorsque nous lui appartenons, nous sommes dans le creux de sa main. Sa main qui nous tient et qui nous protège. Pourquoi est-ce qu'il n'en est pas ainsi? C'est lorsque le péché nous vient, nous souille, peut-être tes propres idées. Est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que tu es mort à ta propre volonté, à tes propres voies? Si c'est le cas, alors tu es dans sa main. Nous voulons prier. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. C'est une parole vivante, une parole qui nous enseigne, une parole qui nous fait avancer, qui nous pousse vers ce qui nous attend. Parce que nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous sommes. Donc que nous puissions rechercher ta sainteté encore plus. Que cette parole puisse faire partie intégrante de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à la puissance qui réside en toi. Cette puissance qui est à notre service, que nous pouvons utiliser. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux, parle à nos cœurs, afin que nous saisissions la sagesse. Pourquoi, sois avec nous dans les jours à venir, dans cette nouvelle semaine, que ta grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit puisse être telle que nos cœurs sont ouverts à ta vérité. Tout cela nous demandons au nom de celui qui nous tient dans sa main. Amen.